Bonjour, alors aujourd'hui mardi, on revient sur les questions et réponses suite à l'introduction la semaine dernière du formulaire de candidature sur lequel je vous mettais en piste, en réflexion pour pouvoir obtenir du financement pour votre projet qui incarne des valeurs humanistes, qui a une vocation finalement sociale. Et l'idée, c'est pour obtenir ce financement, effectivement de se mettre en réflexion, mais il y a évidemment un tas de questions qui vont venir avec ça, et cette semaine je vous accompagne justement sur ces questions. Alors, je vous le disais hier, les questions principales sont venues par rapport à la communication, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi sur LinkedIn, surtout LinkedIn, puisque effectivement, ce que je vous disais vendredi, c'est un des réseaux principaux sur lequel il faut développer sa communication, en tout cas dans le domaine du business, pour établir du lien avec des gens qui sont dans le même secteur, qui sont susceptibles de nous aider dans le cadre d'une collaboration, d'un partenariat, etc. On peut également trouver des clients dans ce domaine-là, on est dans le B2B, c'est vraiment la plateforme où il faut être présent. Alors, je viens d'avoir un mail justement qui m'a un petit peu interpellé et je voudrais revenir là-dessus. C'est que une personne en fait me dit qu'elle a déjà réussi à contacter, à mettre dans ses contacts environ plus de 3000 personnes, 3243 personnes exactement, merci pour la précision, dans ses contacts, et qu'elle a l'impression de s'être grillée parce que elle a déjà fait des campagnes en fait de communication et ça n'a pas eu beaucoup de résultats, et du coup l'impression que ça sert à rien, et elle se demande un petit peu comment rectifier le tir. Est-ce qu'il faut baisser les bras et considérer que ça ne marche pas, ou au contraire, justement tenter une autre approche? La réponse, elle est claire, hein. Forcément, je vais pas dire qu'il faut s'arrêter, ça serait contre mes principes. Moi, je voudrais rappeler simplement que quand on a une communication qui fonctionne pas, ça veut pas dire en fait que ça passe pas, que c'est pas le bon projet, etc. Ça veut simplement dire qu'on s'y prend mal. Mais on s'y prend mal, ça parle de compétences, ça parle pas de soi, et donc on n'est pas grillé. En tout cas, si on a fait des tentatives qui ont pas fonctionné, déjà on a droit à l'oubli, et franchement, la plupart des gens en fait s'en souviendront pas. Maintenant, si on veut vraiment créer du lien et renforcer justement la qualité de notre communication sur de nouvelles bases, on peut simplement nommer les erreurs qu'on croit avoir faites, on peut dire comment on se sent par rapport à ça et créer du lien sur base de la vulnérabilité. Il n'y a rien à faire quand on est vulnérable, quand on se montre vulnérable, on gagne en crédibilité parce que simplement on est à nouveau accessible et on est comme tout le monde en fait. À moins que d'être complètement dans l'ego et de se montrer froid, distant et complètement inhumain, je pense que d'une manière générale, les personnes qui savent se montrer vulnérables et qui savent avouer leur fragilité, leur faiblesse, vont gagner beaucoup plus de sympathie que les personnes qui ne le font pas. Et donc ça fait partie pour moi de la démarche justement humaniste de la communication, qui est de savoir créer du lien de manière sincère, authentique, et de créer des relations qui soient plus profondes que simplement opportunistes, même si l'opportunité est importante évidemment pour initier la relation. L'étape suivante, c'est justement renforcer le lien à partir d'un partage, à partir de notre authenticité, de notre personnalité. J'avais déjà abordé ça il y a quelques temps, c'était l'effet de halo. Cet effet, en fait, c'est simplement un effet qui a été testé d'ailleurs, qui permet de mettre simplement les gens en meilleure condition pour recevoir les informations et les propositions qu'on leur fait. Alors cet effet de halo, c'est une énergie en fait qu'on va transmettre simplement parce que on est empreint de nos valeurs et de notre personnalité, et que ensuite effectivement on croit en ce qu'on fait, on y met toute son énergie, on communique avec toute cette énergie, cette passion même, et l'effet de halo va partir de là, simplement parce qu'on croit en ce qu'on fait, qu'on est complètement habité par cette croyance, et que bien sûr on a aussi développé une certaine clarté par rapport à nos objectifs et donc notre manière de communiquer. Et dans cette clarté, dans cette énergie, il y a le potentiel d'un effet de halo, c'est-à-dire qu'en fait, en persévérant, on va acquérir davantage et davantage de confiance qui va justement se faire ressentir et qui va permettre de toucher davantage les gens. Il y avait un exemple qui avait été donné à ce niveau-là, c'était un jeune homme qui devait convaincre par écran interposé en lisant un texte, deux groupes de femmes de quatre personnes, donc huit femmes. Le premier groupe de femmes, en fait, il lisait un texte de manière neutre, et les quatre femmes avaient le choix de le rencontrer ou pas, et il obtenait un rendez-vous. Et puis, il refait exactement le même texte, mais cette fois avec beaucoup d'emphase, de personnalité, d'énergie, de sympathie, etc. Et là, sur base de leur ressenti, trois femmes sur quatre ont envie de rencontrer ce jeune homme. Alors du coup, évidemment, la grosse différence, c'est quoi? C'est une démonstration de l'effet de halo. C'est que le texte est le même, le contenu est le même, par contre, le ressenti est complètement différent. La première personne qui a, dans le premier groupe, a voulu rencontrer le garçon lui donnait des excuses logiques, le stress, etc. Par contre, les trois personnes qu'il voulait rencontrer dans le deuxième groupe, en fait, étaient touchées émotionnellement. Donc ça va beaucoup jouer, ça va jouer en la faveur de quelqu'un, et un contenu froid qui manque justement de cette dimension d'emphase, cette dimension de personnalité, d'authenticité, de chaleur, etc. Eh bien, forcément, ça va être beaucoup plus difficile de communiquer à partir de là. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut dire que simplement il va falloir mettre beaucoup plus d'énergie et persévérer davantage pour atteindre la ligne d'arrivée. Maintenant, les résultats seront, en théorie, multipliés par 3, finalement, si on se base sur ce test, en tout cas. On aura finalement dépensé beaucoup moins d'énergie pour de meilleurs résultats, simplement parce qu'au départ, on a communiqué une émotion. Alors, finalement, quand on y réfléchit bien, je pense que c'est un peu les critères qui font d'une personne un leader, en fait. Une personne qui sait se mettre dans la position d'un leader, c'est quelqu'un qui a des aptitudes notamment en termes de communication, qui va pouvoir se mettre au service de l'autre, en fait, qui va se mettre vraiment au service de l'autre, non chercher à être une opportunité pour l'autre, et qui va en même temps partager sa vision. Et cette vision va être perçue à travers l'énergie qui est incarnée comme étant attractive, ou en tout cas, voire même dans certains cas, irrésistible. Et c'est ça, en fait, la clé d'un bon leader, c'est de pouvoir justement se positionner de cette manière-là, de manière très positive, pour pouvoir amener les gens à donner leurs compétences de manière tout à fait humaine, dans la joie, dans l'allégresse, avec un certain positivisme, qui va amener chacun finalement à s'innover, en fait, à innover dans son activité et se remettre en question et avancer et développer comme ça progressivement le meilleur. Et c'est comme ça qu'on va développer des relations amicales, c'est comme ça qu'on va entretenir les relations. Il va falloir écouter. Avant tout, écouter deux fois plus, on a deux oreilles et une bouche, on écoute deux fois plus qu'on ne parle, et se mettre surtout à la place des autres, essayer de comprendre, s'intéresser à leurs besoins pour pouvoir ensuite partir de cette capacité qu'on a de comprendre les choses, d'innover et de créer un réseau d'influence. Et c'est un peu le même principe sur les relations virtuelles finalement. Il va falloir représenter une opportunité, mais pas que, il y a aussi toute l'énergie qu'on va mettre, toute l'originalité qu'on va mettre, la personnalité qu'on va mettre, et toutes ces capacités qu'aurait un leader de communiquer avec des personnes pour en obtenir le meilleur, pour générer la plus belle part d'elle-même, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Quand on est capable de faire ça, on peut obtenir quasiment tout ce qu'on veut. La seule chose, c'est que ça doit être sincère, authentique, incarné, et non pas recherché, calculé, parce que c'est pas du tout la même énergie, et ça se ressent, qu'on le veuille ou non, ça se ressent. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui me disaient des autres, ah oui, lui, c'est un requin, elle, c'est un requin. Oui, en même temps, ce sont des personnes qui parlent d'elles. Si l'autre est un requin, il y a un miroir, forcément. Maintenant, si effectivement c'est le cas, ça change rien. C'est pas parce que l'autre est comme ça que pour autant il faut le pointer du doigt. Un jour, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, ouais, quand on pointe du doigt, en fait, on fait un fusil, on a trois doigts qui pointent vers soi. Donc, en fait, c'est pas l'autre qu'on tue, c'est soi. Bon, après, voilà, chacun interprète les choses comme il veut. Mais je trouvais ça rigolo, en fait. C'est vrai qu'il y a trois doigts qui sont pointés quand on pointe l'autre du doigt, et c'est assez rigolo. Bon, après, c'est qu'une vision de l'esprit. Ça arrange certaines personnes, ça démontre rien. Mais c'est cocasse, voilà, simplement. Bon, donc tout ça pour dire, effectivement, les choses peuvent ne pas fonctionner pendant un moment. C'est pas pour autant qu'on peut pas s'en tirer par le haut. Et je vais encore aller même plus loin par rapport à ça. Finalement... Les personnes qui baissent les bras, qu'est-ce qu'elles font la plupart du temps? Elles se remettent en question par rapport à elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles se remettent en question en termes de compétences, en termes de confiance en soi, en termes d'affirmation en soi et en termes d'estime de soi. Et elles se tirent vers le bas. Ce qui se passe, si on dissocie la situation de nous-mêmes. Parce que finalement, c'est très égocentrique, hein. On se prend un peu pour le centre du monde à partir du moment où on croit que le projet, c'est nous et que si ça marche pas, c'est nous le problème. Non. En fait, ce qui marche pas, c'est le processus. Si le processus ne fonctionne pas, c'est pas nous qui devons être remis en question. C'est le processus qu'il faut remettre en question. Et donc à partir du moment où on peut se dissocier du processus, eh bien on se dissocie aussi du résultat. Résultat, justement, c'est pas nous qui sommes remis en cause, c'est le processus. Et à partir de là, si ça n'a pas marché, c'est une recette de cuisine qui fonctionne pas, peut-être qu'il manquait des ingrédients, peut-être que les ingrédients qu'on a utilisés étaient pas bons. C'est pas qu'on n'a pas essayé de le faire, on a tenté de le faire. Et par rapport à quelqu'un qui n'essaie pas, on sera toujours jugé de toute façon par des gens, et encore plus par des gens plus petits que soi. Maintenant, on a le mérite d'avoir essayé et de persévérer. Et cette persévérance, elle amènera toujours quelque part, ce qui est pas le cas évidemment de ceux qui baissent les bras. Donc voilà, c'est ça qui va faire la différence fondamentalement. Et on peut avoir même le projet le plus simple du monde, hein. C'est écrit sur mon site et vraiment je pense que c'est vrai, c'est une réalité, en fait je pense même pas, c'est une réalité, c'est démontré, prouvé pour n'importe qui, il faut même pas y réfléchir 10 ans, Quelqu'un peut avoir une idée géniale et baisser les bras, mais à côté, quelqu'un peut avoir une idée complètement idiote et, enfin, c'est vraiment pour faire le fossé entre les deux, c'est pas nécessairement idiot, et avancer et persévérer et obtenir des résultats et peut-être même réussir. Donc, voilà, au final, ça n'est qu'un processus et il faut vraiment le dissocier. Ça, c'est important et surtout pas se remettre en question au-delà de ce qui est nécessaire. Voilà, je voulais rajouter cette couche-là aujourd'hui parce que je considère que, effectivement, c'est tout aussi important que le reste et ça doit, finalement, transpirer dans notre communication, ça doit rayonner dans notre communication, cette volonté effectivement d'être une opportunité de partager, etc., ça doit partir du cœur, ça doit partir de la volonté de vraiment co-créer quelque chose avec l'autre, se mettre à son écoute et construire en étant dans une position gagnant-gagnant et pas simplement construire en faisant croire qu'on veut faire gagner à l'autre, mais en fait on n'offre pas grand-chose ou c'est pas tout à fait sincère. Il faut que ce soit un vrai partage. Quand c'est un vrai partage, eh bien la vocation humaniste transpire, qu'on le veuille ou non, elle transpire à travers nos mots, elle transpire à travers notre langage corporel, elle transpire à travers notre énergie, elle transpire à travers les fichiers audio par podcast, etc. Elle transpire partout, il y en a partout, ça dégouline. Bon, c'est pour l'image. Mais voilà, ça pour moi, vraiment, c'est l'aspect le plus important, c'est s'il va permettre de construire des relations sincères, profondes, qui seront reconnues déjà par nous, parce qu'on va le sentir, hein, quand on est habité par cette énergie-là, on le sent, et forcément, on peut le faire aussi avec une certaine légèreté, parce qu'à partir du moment où on est habité par cette énergie, on n'est pas loin de la joie, en fait. Il y a une certaine joie dans le fait de se retrouver là-dedans, mais c'est pas une fausse joie, c'est une vraie joie sincère, qui est complètement détachée du résultat, et qui se contente simplement d'être, qui se contente d'exister, et puis, bon, bien sûr, si ça génère des résultats, c'est encore mieux, ça c'est sûr, et c'est un peu l'objectif, mais c'est pas le but en soi. Tout ce qu'on va faire, le chemin qu'on va parcourir pour atteindre le résultat est plus intéressant que le résultat en soi, parce qu'une fois qu'on l'aura atteint, il aura perdu sa valeur, de toute façon. Donc voilà, autant s'alléger le chemin et faire les choses avec le plus de joie possible, de bienveillance, surtout de la bienveillance, de l'authenticité, et à partir de là, ça prendra là où ça peut prendre. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, si on se rend compte qu'on s'adresse à une grosse masse d'un public qu'on aurait ciblé s'il a été ciblé correctement, à un moment, on vient aussi l'étape de la segmentation. C'est-à-dire que pour avoir des meilleurs résultats, on va segmenter en fonction de ce qu'on aura identifié dans un groupe de personnes, un groupe de contacts, différents profils qui vont peut-être pouvoir être regroupés et requérir différentes stratégies de communication qui seront plus liées à des besoins plus spécifiques. Et donc, ça va permettre d'aller beaucoup plus loin. On va pouvoir même aller avec une précision quasiment chirurgicale, en fait, choisir les profils des personnes en fonction du type de communication par rapport à certains critères. Et ces critères, il faut les trouver. Pour ça, il faut connaître son marché. Et connaître son marché, c'est se mettre à l'écoute. C'est tout. Se mettre à l'écoute, aller au-devant de leurs besoins, mais surtout se mettre à l'écoute de leurs besoins pour pouvoir les développer. Et c'est à partir de là, en fait, que les choses vont prendre et que même si ça n'a pas marché, ça prendra, tôt ou tard, ça prendra. Mais il faut surtout pas s'arrêter en cours de route. Voilà, bon, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain dans le prochain podcast. D'ici là, évidemment, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.